Salut les amis.
Salut Charlie.
Alex va être content.
Mais quoi
hein. On va parler de chansons françaises.
C'est pas vrai.
Si.
Mais on reçoit qui? Gérard Lenormand, Marcel Amou, hein, Hugo Frey?
Ben non, beaucoup mieux.
Non mais Alex, il peut pas comprendre qui est mieux qu'Hugo Frey.
Mais c'est qui?
Jane Birkin.
Ah.
Oui, elle vient pour un album sur Serge Gainsbourg.
Waouh. Mais pourquoi elle vient?
Mais je viens de te le dire enfin. Pour un disque sur Serge Gainsbourg, enregistré avec l'orchestre symphonique.
Ah, c'est chic.
Non mais je me doute qu'elle a une actu. Mais je veux dire, pourquoi elle vient chez nous?
Ah, ça je comprends pas là.
Non, mais sur cette chaîne, il y a des grands intervieweurs culturels. Il y a Augustin Trapenin, il y a Laura Adler.
Bah ouais, il y a
non, mais attends, je crois que je comprends. En fait, tu trouves qu'on n'est pas une émission assez bien pour Jane Birkin?
C'est pas ça. Mais hier, on a parlé de chaussettes dans les claquettes.
Oh, ça c'est pas Laura Adler qui s'en serait chargée.
Ah oui, puis Jane Birkin, elle est anglaise. Hein. Ils ont pas toujours bon goût, ces gens-là.
Non, mais oui, mais c'est difficile de parler de l'influence des grands compositeurs classiques sur l'œuvre de Gainsbourg. Et puis paf, allez, on passe Dvorak aux claquettes.
Non, c'était hier les claquettes.
Oui. Bah, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a?
Ah, il y a un sujet qui tient l'Espagne en haleine.
Ah, tu vois. On fait de la grande actu internationale.
C'est quoi le sujet?
Bah, ils ont remarqué que les hommes écartaient beaucoup les jambes dans les transports.
Ah bah là, on tient un grave problème.
Ah bah si, c'est grave, hein, c'est le début de la domination masculine.
Excuse-moi, mais Jane Birkin, pensez-vous que Chopin, qui a bien inspiré Serge, était du genre à écarter ses jambes dans le bus 43?
Tu caricatures.
Bon, ça va, il y a d'autres sujets?
Oui, la positive attitude.
Bah elle va être bien contente de parler de Laurie, tiens.
Ah bah tu vois, t'es pas positive.
Non mais c'est tout le sujet justement, les Français redeviennent positifs.
Alors voilà. Ça, je n'y crois pas.
Et les Belges deviennent négatifs, on dirait là.
Oh, pas moi, hein. Moi je suis ravie de recevoir Jane Birkin, hein. Puis je suis certaine qu'elle sera ravie aussi. Ah bah d'ailleurs, on va lui demander.
Tu vas lui demander avant ou après de savoir si Rachmaninov se grattait les couilles dans l'erreur?
Non mais là clairement il est négatif.
Bonjour la France Inter, bonjour à tous, vous écoutez l'émission qui pousse l'actualité dans les orties. Et voici les trois informations qui vont un petit peu piquer jusqu'à 18h. Maintenant que le Brexit est acté, reste à savoir si ce sera un Brexit dur ou un Brexit doux. Je vous laisse deviner celui que Theresa May a choisi.
1, 2, 3, 4, c'est mou hein, un peu plus nerveux.
Quand on vit en France, est-il indécent d'afficher son optimisme? Le nouveau président nous dit « penser printemps », alors quand le citoyen s'y essaye, ça lui demande un petit effort. Hein.
Écoute, ma bonne Suzanne, t'es une épouse modèle.
Oh.
Mais si t'as que des qualités, c'est le bonheur rangé dans une armoire. Et tu vois, même si c'était à refaire, eh ben, je crois que je t'épouserai de nouveau. Mais tu m'emmerdes.
Les hommes qui s'assoient dans les transports en écartant les jambes, vous êtes faits, car votre comportement est stigmatisé depuis qu'il porte un nom, le manspreading.
Qu'est-ce qu'il faisait, ce gros dégueulasse?
Bah, il écartait les jambes dans les transports en commun, je viens de le dire. Et moi, je suis accompagnée de celui qui a réglé le problème. Il n'ose plus les prendre, les transports en commun.
Oui, dans le Uber, on fait ce qu'on veut. Et aujourd'hui, autour de la table, invité exceptionnel, équipe exceptionnelle, à 17h20, s'il était une presque chanson de Serge Gainsbourg, il serait l'homme qui donne la tête de chou, puisque c'est lui qui choisit les disques qu'on écoute sur cette antenne. C'est Djoubaka, bonjour.
Bonjour, je suis pas tout seul à les choisir quand même.
Non, mais c'est vous qui les choisissez le mieux. Hein.
Et oui, tout à l'heure on va parler des contrefaçons justement musicales.
Très bien, 17h30, s'il était une presque chanson de Gainsbourg, il serait française, français, je t'aime moi non plus, c'est Guillaume Meurice, bonjour.
Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous parler de la French Tech, une activité en plein essor avec un bon feedback sur le leader.
On pense disrupter pas mal de marchés.
Pige rien, c'est génial.
Et enfin, 17h40, si elle était une presque chanson de Gainsbourg, elle me dirait « Je suis venu te dire que je ne serais même pas venu ». C'est Clara Dupont-Mono, bonjour.
Bonsoir Djoubaka.
Bonsoir.
De quoi vous allez parler à Djoubaka tout à l'heure?
D'un homme qui disparaît.
Oh là là.
Et voici celle qui a tout annulé pour nous. On est trop fiers. Vous débutez à 18 ans dans le cinéma en Angleterre et en 66, vous jouez dans Blow Up d'Antonioni, Palme d'Or à Cannes. Et sur le tournage de Slogan, vous rencontrez Serge Gainsbourg. En 69, vous enregistrez Je t'aime moi non plus. Et à partir de là, la France connaît la suite en chanson et au cinéma. Car vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes...
Ah, Jane.
Oh, Jane.
Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout.
Il paraît que je suis un peu le sosie de David Hemmings.
Ah.
Qui jouait dans Blow Up.
C'est pas,
les
cinéphiles, c'est pas faux.
Les cinéphiles me reviennent très souvent avec ça. Ouais, véridique.
Et les cinéphiles avaient de l'argent à vous demander, non?
Ouais, non, mais je suis content parce que, quand même, faire une photo avec vous.
Voilà.
Donc, bon, c'est tout ce que je voulais
Birkin,
dire.
Ouais, on est à l'antenne, là, en fait.
Hein. C'est bien de le dire, quand même. Voilà.
C'est bien, écoutez.
Voilà, Blow Up, hein, oui, ça parle que... Je vais aller sur France Culture.
Je vous laisse,
on ira sur France Culture, allez-y.
Je vous laisse discuter avec Jane Birkin.
Mais oui, c'est ce qui va se passer. Dites-nous pourquoi elle est là, Jane Birkin.
On peut écouter, alors si vous êtes auditeur de France Inter, vous nous écoutez sans doute, vous avez sans doute entendu avec beaucoup de bonheur Jane Birkin chanter avec l'Orchestre Symphonique de Radio France, récemment. Il y a l'album Birkin Gainsbourg, le symphonique, avec les arrangements et au piano... Nobuyuki Nakajima qui vous suit, car vous avez une tournée internationale, Jane Birkin. On va donner quelques dates tout à l'heure. Et vous avez enregistré avec l'Orchestre Symphonique de la Radio Polonaise. Alors, on a des questions à vous poser. On va commencer avec Alex.
Mais oui, évidemment, l'occasion d'entendre Serge Gainsbourg avec un symphonique, on se dit, mais ça a dû exister de nombreuses fois. Et en fait, c'est la toute première fois que ça existe.
Non, c'est la première fois pour le film. J'étais moi non plus. Il a pu avoir un grand orchestre parce qu'on avait un producteur. Ouais. Et il était, un producteur avec un peu de sous. Donc c'était Claude Berry et il a pu avoir, autant de violines qu'il voulait. Enfin, et c'était très très somptueux, quoi. Et j'ai vu qu'il était terriblement ému. On était avec Jacques Strauss qui était son producteur et voilà, j'ai vu que quand il y avait beaucoup de cordes, etc., qu'il aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup ça.
Mais il était très pudique vis-à-vis de ce qu'il estimait être la vraie grande musique.
C'est ça qui est charmant, parce qu'en fait, je suppose que peut-être c'était par cette réaction-là que quand il avait fait des chansons pour des personnes qu'il aimait particulièrement, comme Charlotte, avec un zeste citron, comme aussi moi, mais aussi plein d'autres, Bardot et Nichols Bibi, tout ça c'était classique. Et à la dernière minute, il nous donnait ça tout d'un coup, comme s'il voulait trouver le meilleur. Et pourtant, il était capable d'écrire les deux soucis, couper le bonheur, des choses somptueuses. Mais voilà, ça fait que quand j'étais en interview avec une fille en Canada, je lui disais ça. Elle a dit, pourquoi tu fais pas ça avec un orchestre philharmonique? Je dis, parce que peut-être c'est un peu prétentieux, avec une petite voix de tout d'un coup, voilà. Et puis, ça peut être aussi un peu chiant, parce que les acteurs, à la fin de leur carrière, les chanteurs, ils font un dernier coup avec un philharmonique. quand elle a dit ça, elle a dit, mais je vous donne l'orchestre à Montréal, et c'est dans le cadran de, voilà, le cadre des francopholies. Donc, je me suis dit, si Nobuyuki Nakajima peut faire des orchestrations, comme c'était un musicien qui était un compositeur de film, eh bien, peut-être ça va pas être chiant, parce qu'on va pas savoir où on va entre les chansons. Et en fait, c'est ça qui est très intriguant. Il y avait Philippe Richomme qui a décidé quelle chanson un peu plus inattendue, parce qu'après tout, pour moi, depuis 25 ans, c'est quand même toujours les mêmes chansons.
C'est ça, mais le choix est pas évident, parce qu'il y en a qui, évidemment, je suis tombé sur France Musique, il y a une page où ils expliquent les 10 morceaux dont Gainsbourg a pu s'inspirer pour des chansons. Sur les 10, vous en avez choisi 3. Il y a Babylone, c'est Brahms. Il y a GNB, c'est Chopin. Et Requiem pour un con, c'est Dvorak. Est-ce qu'alors, il y a d'autres chansons qui vous semblaient évidentes, la javanaise, ces chansons-là?
Bulmarine aussi que vous reprenez.
Oui, parce que je l'avais adoré. Quand Serge m'a écrit, quand on était séparés, je suis allée rue de Verneuil pour choisir des titres, comme il disait. Et il y avait un papier blanc, un crayon, et puis il avait un petit enregistreur où il avait enregistré les musiques qu'il avait fait peut-être la veille au piano. Et chaque fois que ça me semblait bien, je mettais des croix, comme j'ai toujours fait. Donc, 1, 2, 3, parce que c'était, je ne sais pas, les deux sushis, que fait le bonheur, 1, 2, 3. Puis tout d'un coup, j'entends sans mots, évidemment, juste la musique. Hop, j'étais en train de mettre mes petites croix et Sacha dit, ah non, ça c'est pour Adjani. Alors, punition. Ça, j'ai compris qu'il était en train de faire deux disques en même temps.
C'est vous qui distribuez les chansons aux copines, alors?
Non, c'est elle qui a eu le premier choix. Je me suis dit, chance qu'elle n'a pas pris Fuir le bonheur ou les deux sushis, enfin, tous les miens.
Isabelle Adjani, à qui je ressemble, les cinéphiles.
Ma casting complet, ici.
Jane Birkin, on l'a dit, vous avez repris donc Pulmaré. Et il y a aussi l'aquaboniste qu'on va écouter. La version symphonique de l'aquaboniste, est-ce qu'elle révèle des choses de la chanson? Est-ce qu'on l'entend différemment? Est-ce que peut-être le texte s'apprécie différemment?
Moi, je pense que tous les textes sur le philharmonique s'entendent encore mieux, ce qui est assez incroyable, parce que j'avais un peu peur d'être noyée ou qu'on était obligé de dire à un orchestre de 65 personnes de voilà, mettre la pédale douce parce que la petite n'arrive pas à chanter. Voilà. Ça aurait été un peu navrant. Alors que la manière que c'est créé par Nobu, chacun a nos moments. Et là, c'est pratiquement nu, donc il faut faire très gaffe d'avoir une voix qui tient le coup jusqu'à l'aquaboniste, parce que c'est pratiquement sans instrument. Et en fait, c'est un titre qui est pas possible d'aller en Japon sans ce titre-là. Parce qu'au tout début, Serge avait écrit cette chanson pour Françoise Hardy à propos de Jack Dutronc. Après, quand Serge est mort, j'aurais dû faire un concert tout de suite. Je pense que c'était quelques semaines après sa mort. Et Du coup, on a changé tout le poster. Ça a devenu tout d'un coup le dessin de Serge. Et le Richard m'a dit, il faut chanter tout le dernier disque parce que c'est son dernière œuvre avant de mourir. C'était Amour des Feintes. Tous les 12 chansons, il faut les chanter pour commencer peut-être une chanson pour le définir lui. Et peut-être l'aquaboniste chanter toute seule. Avec un ou deux musiciens qui arrivent petit à petit. Je l'ai chanté sur le bord du Seine au début de ce concert pour que les gens retrouvent une sorte de portrait de Serge sans pleurer, sans... Voilà, en faisant très attention tout de même. Et cette chanson a été prise par les Japonais. Ils ont foutu ça sur à l'époque, c'était un drame qui durait, je ne sais pas, 10 épisodes ou 20 épisodes, un peu comme maintenant. Mais... il y a 30 ans, et ça est devenu numéro 1. J'étais tout d'un coup vendeuse numéro 1 avec cette petite chanson d'aquaboniste en Japon. Maintenant, il le prend ça pour eux, comme une sorte de chanson spéciale japonais.
Eh bien, on va l'écouter, hein, c'est le dernier single extrait de cet album, Birkin, Gainsbourg, Le Symphonique. Qui dit toujours à quoi bon, à quoi bon. Un aquaponiste, un peu trop idéaliste, qui répète sous tous les tons, à quoi bon. C'est un aquaponiste, un faiseur de plaisanteries, qui dit toujours à quoi bon, à quoi bon. Un aquaponiste, un drôle de je m'en foutiste, qui dit à tort à raison, à quoi bon. C'est un aquaponiste, un faiseur de plaisanteries, qui dit toujours à quoi bon, à quoi bon. Un aquaponiste, qui se fout de tout et persiste, à dire je veux bien, mais au fond, à quoi bon. C'est un aquaponiste, un faiseur de plaisanteries, qui dit toujours à quoi bon, à quoi bon. Un aquaponiste, qui a pas besoin d'oculiste, pour voir la merde du monde, à quoi bon. C'est un aquaponiste, un faiseur de plaisanteries, qui dit toujours à quoi bon, à quoi bon. Un aquaponiste qui me dit le regard triste, toi je t'aime, les autres se sont tous des cons. L'aquaponiste Jane Birkin, Gainsbourg le symphonique, avec les arrangements et au piano Nobuyuki Nakajima. Qui vous accompagnera pendant toute la tournée, qui passe notamment par Strasbourg, Festival des Deux Rives. Ce sera le 1er juillet et c'est là que ça commence. Et puis vous passez par Lisbonne, Tokyo, Bruxelles le 2 septembre, Londres le 26 septembre, Paris au Grand Rex le 26 octobre. Et on vous donnera d'autres dates, bien sûr. Et puis l'album est disponible. Jane Birkin est avec nous.
Vous vouliez peut-être ajouter quelque chose ?
Non, non.
Non, alors, merci.
Non, je crois que j'ai dit Bruxelles, miam, miam, ou une chose comme ça. Ah, c'est possible.
Vous pouvez le redire, ça, c'est bien.
C'est vrai que les artistes aiment bien aller à Bruxelles parce que ça donne un coup de morale.
Ben, vous êtes à l'ambassade ici.
Des fois, c'est pour défiscaliser aussi, tout simplement. Hein.
Pour entourer Jane Birkin.
Guillaume Meurice qui dit que des bêtises, Djoubaka qui parlera musique et Clara Dupont-Mono, évidemment, qui élèvera cette émission.
Et un petit flash d'information très spécial, Jane Birkin. Attention.
Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train.
Vous mentez. Le journal de presque 17h17.
Ça vous reprend.
C'est un mensonge.
Et on commence par les titres.
Alors qu'elle était en campagne sur un marché dans le 5e arrondissement de Paris, Nathalie Kosciusko-Morizet a été agressée ce matin par un passant.
Henri Guénaud a raison. Dans le 5e arrondissement, les électeurs sont à vomir.
Ce matin avaient lieu les épreuves de philosophie du bac 2017. C'est important, la philosophie pour les jeunes.
Oui, quand ils arriveront sur le marché du travail pour un stage non rémunéré, il faudra qu'ils prennent ça avec de la philosophie.
Et des brèves ?
Et bien sûr, aucune brève ne sera maltraitée dans cette émission. Et donc Nathalie Kosciusko-Morizet, ce matin en campagne dans le 5e arrondissement, a été agressée.
Oui, l'homme l'a traitée de, je cite, « bobo de merde ». Il lui a pris ses tracts pour lui jeter au visage, ce qui a déséquilibré la candidate qui a chuté et s'est cogné la tête.
Voilà, on espère que ce n'est pas grave et que ce n'est qu'un petit bobo de merde.
Après cette agression, NKM a reçu de nombreux messages de soutien, aussi bien de droite que de gauche.
Et oui, avec cette triste affaire, elle a plus de soutien aujourd'hui qu'elle n'en a jamais eu dans sa carrière politique.
À droite à présent, oui. François Baroin déclare qu'il a accompagné Fillon au Trocadéro car il pensait qu'il allait abandonner sa candidature.
Ouais, c'est la meilleure défense qu'on a entendue depuis celle de Jawad.
Effectivement.
Heureusement voilà, qu'il n'est pas accusé de viol en réunion. Il aurait dit au juge « J'étais là avec mes potes parce que je pensais qu'ils allaient se retirer. »
Au FN, oui. En ballotage difficile dans le Gard, Gilbert Collard traite les électeurs FN de fainéants.
Et voilà, la jurisprudence Henri Guénaud.
Quant à Marine Le Pen, elle se plaint sur Twitter que dans sa circonscription, le candidat En Marche refuse le débat du second tour.
Excusez-moi, mais... au second tour de la présidentielle, à sa place, je ne voudrais pas refaire ce débat. Hein.
La République En Marche, enfin.
Oui, on a tous des nouveaux candidats pour La République En Marche et on se réjouit de les connaître.
Oui, d'abord, Corinne Vignon. Le parquet de Toulouse a ouvert une enquête préliminaire sur cette candidate En Marche qui est également voyante.
Elle est voyante et en très bonne professionnelle. Elle n'avait pas vu arriver justement ses problèmes judiciaires.
Et notre préférée. Hein.
Dans la septième circonscription du Rhône, Anissa Kéder était sur un plateau télé avant le premier tour pour défendre son engagement.
Écoutez, moi je veux que la porte que nous avons ouverte le 7 mai reste ouverte. Peut-on raisonnablement imaginer le blocage de la France ? J'ai toujours voulu m'engager dans ma ville, ma commune. J'ai attendu d'être élue pour m'investir dans ma ville. Et effectivement, monsieur, j'ai été élue... dans ma ville de 2008 à 2014 parce que je voulais m'investir et participer activement
Voilà. Et donc, elle est arrivée en tête avec 32%. Elle a convaincu tout le monde.
Passons au grand rendez-vous des étudiants.
Oui, les épreuves du bac philo se sont déroulées ce matin.
Parmi les sujets du bac philo, il y avait « Suffit-il d'observer pour connaître ?»
Et c'est une bonne question. Hein. BHL connaît-il vraiment la guerre alors qu'il l'a beaucoup observée ?
Autre sujet, « Tout ce que j'ai le droit de faire est-il juste ?»
Alors, je vous parle, François Bayrou serait encore en train de terminer sa copie.
Et enfin, peut-on se libérer de sa culture ?
Alors, je vous parle, Cyril Hanouna serait encore en train d'essayer de comprendre ce sujet.
Allez, des brèves.
Allez-y.
Aux États-Unis, la dernière mode consiste à pratiquer le yoga avec des chèvres.
Mais moi, je ne savais pas que les joueurs de l'Olympique de Marseille étaient devenus préparateurs physiques aux States.
Allez, la dernière, c'est pour vous.
Un innocent passe 17 ans en prison car le coupable était son sosie. À la place du sosie de Nicolas Sarkozy, je ferai gaffe.
Nous voilà bien informés, Jane Birkin. On peut aborder ce premier sujet, oui. Car on va changer le monde avec vous aujourd'hui. Le Brexit continue de diviser le Royaume-Uni, mais sur un autre segment, entre le Brexit dur de Theresa May et le Brexit mou des travaillistes, soft. Donc le mieux pour les négociateurs européens, finalement, c'est de gagner du temps dans les discussions avec la première ministre britannique. Hein, gagner du temps comme ça.
Teresa.
C'est vrai.
Teresa.
Ça dure 3 minutes. Hein.
Oh. Teresa.
brillante interprétation des inconnus, bien sûr. Le Brexit dure, le hard Brexit, c'est donc la fin de la libre entrée des Européens. Et le Brexit soft, c'est quand même la priorité à l'accès au marché unique et la libre circulation des personnes. Je sens que vous êtes plutôt Brexit soft, vous, Jane Birkin.
Je suis plutôt soft, mais c'était intéressant. J'étais en Angleterre pendant ce... Elle a fait quand même une élection rapide en pensant de gagner.
Anticipée,
oui. Et oui, anticipée. Pour avoir plus de personnes pour pouvoir pousser son opinion plus facilement.
Elle a fait une Jacques Chirac.
Elle a fait un Jacques Chirac, absolument. Mmh. Mais ce qui était drôle, c'est qu'elle avait oublié que pour les Anglais, l'importance quand même... C'est tout de même l'éducation où si tu vas à l'université, tu payes 20 briques. Si tu es un garçon, 30 briques dans ton premier job, il faut que tu repayes 30 000 euros. Elle a oublié que les hôpitaux ils sont dans un état navrant. Elle a oublié que finalement, les gens, éducation, santé... Elle avait dit les choses très dures pour les pensionneurs, qu'il fallait qu'ils payent eux-mêmes pour leur pension. Enfin, il y a eu des choses qui ont choqué les Anglais, mais socialement. Donc, elle n'a pas trouvé autant de votes qu'elle avait espéré. Donc, maintenant, probablement, ils vont essayer de faire... Est-ce que c'est des Norvégiens qui ont un deal différent?
Bonne question.
Ah, vous nous collez là.
Alors, on est collés.
Si, ils n'ont pas la même monnaie.
Non, ils n'ont pas la même monnaie. C'est comme les Anglais. C'est comme les Anglais, je crois.
C'est ça,
donc, ils espèrent d'avoir différentes choses tout en restant en Europe, je suppose. Je suppose aussi que c'est à voir si les autres Européens veulent de eux.
Pour vous,
maintenant qu'ils sont partis, il faut que tu un peu la merde.
Pour vous, concrètement, qui travaillez des deux côtés, est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que vous allez devoir réfléchir ou si c'est mieux de vous installer là-bas ou d'être ici?
Certainement pas. Le seul fléchissement que j'ai eu, c'était un frayeur avec Marine Le Pen en France. Moi, je suis ici depuis 50 ans. Donc, ça fait quand même un pays. Alors, j'ai jamais voté en Angleterre et j'étais arrivée ici à 20 ans. Donc, je n'ai jamais eu de...
Et la grosse gamelle que s'est pris Theresa May, ça vous a fait un peu plaisir, donc.
Je suis un peu comme les Français, oui.
Ah, vous aussi, on peut
vous
dire.
Bah oui, un peu, oui.
Est-ce que vous
J'aime pas sa façon de parler. Tous ces trucs, même avec les bombardements, même avec les difficultés qu'on a eues, il y avait un côté de tout un coup parler comme Churchill, mais c'est pas la guerre. Mm-hmm, ça m'a irritée, ce
truc. Et comme un robot aussi.
Il
paraît qu'elle parle un peu comme un robot désincarné, et que depuis qu'elle s'est pris une gamelle, elle a un petit peu plus incarné.
Elle a devenu un poil plus modeste, oui.
Vous dites que vous êtes en France depuis 50 ans,
oui.
Mais du coup, vous êtes plus investi par la vie politique française que la vie politique anglaise. Comment vous faites? Vous avez deux pays, en fait, un natal et un... Comment ça se passe pour vous?
Non, si je me suis involvée dans les choses, dans les causes, etc., ça serait plutôt les causes sociales françaises. Ou les choses comme, je ne sais pas, la guerre en Yougoslavie, il y a des tas de choses qui étaient mondiales. Mais plus que le politique français, c'était des affaires sociales françaises ou les choses qui me semblaient injustes ou d'avoir marché dès le début contre la peine de mort, les choses comme ça, que je venais de faire en Angleterre avec mon père. Donc, en Angleterre, je n'oserais pas trop faire quoi que ce soit parce que j'y connais rien, en fait, en politique anglais. Donc, je lis tous les journaux. Donc, je suis au courant et puis je connais des gens qui sont plutôt de gauche anglais et qui étaient plutôt pour Corbyn récemment. La jeunesse, notamment. Et les parents plutôt humbles vis-à-vis de leurs enfants ont dit, écoute, c'est leur futur. Nous aussi, on trouve ça vache pour les écoles, etc. Donc, ça a modifié le vote. Mais il est trop à gauche. Vraiment, les Anglais sont très conservateurs, dans le fond. Donc, Corbyn est trop à gauche.
Jane Birkin, l'européenne convaincue, qui est avec nous. À côté de vous, il y a Djoubaka, pour reparler un peu musique, Jane.
Ouais, on va y aller. Alors, aujourd'hui, j'aurais pu appeler cette chronique « Méfiez-vous des contrefaçons ». Et en matière de musique, vous le savez comme moi, elles sont légion. Et il y a le label Born Bad qui vient de sortir une compilation de faux groupes punk français et belges, dont le fait d'armes principal est de n'avoir jamais été punk. Donc, cette compilation a pour titre « Bingo ». Et il fait autant référence au hasard du jeu en question qu'au pognon qu'il peut rapporter si on tombe sur la bonne case. Alors, voilà l'histoire. Je prends une généralité. Quand un courant musical fonctionne, on voit débarquer dans dans les mois qui suivent des gens dont l'idée est de se faire très très vite de l'argent en surfant sur le succès des autres. Et de temps en temps, ce sont des producteurs qui font ce travail. Mais parfois, il peut aussi s'agir de musiciens qui sont un peu là d'attendre le succès et qu'il essaye de l'attraper par une autre porte. Un des moyens d'arriver est de donner, en France en particulier, dans le genre parodique. Et en matière de punk, c'est pareil. Après le succès d'un Belge qui s'appelait Plastic Bertrand et de son très parodique Satane pour moi, vendu à plus d'un million d'exemplaires en quelques semaines, que l'on jouait même dans les mariages et dans les bals populaires en France, hein, tout le monde veut sa part du gâteau. Et ce titre est en effet un disque fabriqué par des producteurs hein, qui choisissent absolument tout, la parole, la musique, et qui placent une marionnette en fait sur le devant de la scène. Alors, je vais laisser les Belges de côté, on va s'intéresser
c'est
à nous parce qu'on en a des costauds.
On en parle encore beaucoup de cette
affaire. Oui, mais bon, c'est pas très compliqué non plus. Hein. Alors il y a Pierrot, hein, qui est musicien et patron d'un tout petit label qui s'appelle Tromblas, dont la baseline donc du label est Tromblas, les disques qui ne s'usent que si on s'en lasse. Donc lui, il enregistre une dizaine de chansons, comique, il monte à Paris, il laisse ses maquettes dans les maisons de disques, qui repart chez lui, et puis il a la surprise, quelques mois plus tard, de s'entendre à la radio, avec son magnifique, c'est le titre de la chanson, « Non, je ne mangerai pas ma bouillie ». Et comme il avait oublié de laisser ses coordonnées, en fait, sur ses maquettes, hein, et ben personne n'avait eu l'occasion de le contacter, vous ne savez pas qui c'était. Donc il s'entend à la radio, il va à Paris, il va chez Barclay, ici il y a un contrat, il écrit pour les autres, et puis il sort un disque qui s'appelle « Quelle épique époque et punk ». Là, très bien.
On dirait du Guillaume Meurice.
Ben, un peu, j'aime quoi, bien, et donc c'est un bide total, mais c'est le départ, bah c'est pareil, en fait, vraiment de la course à la chanson punk en France. Donc, on va avoir un vrai tour de France avec Gérard Boll de Chaumont, qui est un ex-musicien de la scène progressive, qui lui va enregistrer C'est la défonce, mais ça sort le même jour que Gabi, au Gabi de Alain Bachung, donc c'est mort aussi, voilà. Alors, le mieux arrive, quand même. Un ancien des Martin Circus avec Je m'éclate au Sénégal, une des chansons préférées d'Alex, qui s'appelle Gérald Pisani, qui choisit de faire une carrière solo, lui aussi. Et puis, il va l'assumer complètement, et il déteste le punk, il trouve ça tellement débile, mais il va faire un faux gros punk qui s'appelle Bulldozer. Il enregistre en 36 heures tout un album, c'est vrai, hein, et dont le titre phare est Il était une tranche de foie dans l'Ouest. Dans le même genre, on a quand même les danseuses des Martin Circus qui s'y mettent, et ça donne le beau tétard sur son cigare, etc., 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 quoi. Vous avez compris le principe, tu vas acheter un meuble Louis XV en t'en refilant en plastoc. Et là, on va quand même revenir un petit peu avec ce qui se passe aujourd'hui. À Malaga, il y a un informaticien qui travaille depuis quelques années, en fait, sur un logiciel qui compose à la place de l'humain. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle est capable de produire de la musique. Et ça, ça a fait réfléchir les producteurs de disques pop dans le monde entier, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, si on prend tous les numéros 1, qui ont été les titres numéro 1 dans chaque pays, et qu'on le rentre dans cet ordinateur, est-ce qu'on est capable de sortir le tube mondial qui va marcher absolument partout? Eh ben, ils sont dessus, là, hein, donc il va falloir faire très très attention. Et donc, ils ont décidé, en fait, de faire ça, et on sait que le logiciel, lui, il ne demande pas de droit d'auteur. C'est quand même de l'argent qu'on gagne, ni d'avance sur recette. Il fonctionne tout seul, il peut sortir une chanson entre 10 secondes et 8 minutes. Hein. Et il passe pas le budget promo en picole, et ça présage vraiment du pire, c'est le métier qui s'en va. Quoi. Donc il va falloir s'affiner les oreilles, parce que tout cela est bien triste. Alors je vous propose là, à tous les deux, là, d'écouter une parodie de la parodie faussement punk d'un Belge, qui s'y colle. Le morceau s'appelle « Ça gaze pour moi ». Et vous allez me trouver qui est l'interprète.
Bam, bam, je travaille pas, ik ben altijd fatigué. Je suis slap comme une savate, je vais chômer, c'est plus gay. Et je suis quand même payé, ça c'est du spec pour mon bec. Moi je suis le mec. Tu trimes comme un souquelet, il faut être zot, faut être cinglé. Moi je dors comme une marmotte la journée. Puis je vais jouer au pitcher's back et boire ma jatte. Après je suis zot. Ça gaffe pour moi. Ça gaffe pour moi.
Un indice, Djoubaka.
Alors, il s'appelle Chiche. Ça lui dit rien. Hein. Un gros moustachu avec des moustaches de gendarme. Et là, dans ce titre, il s'appelait Plachtichke. Voilà. Donc ça, c'est le meilleur de la Belgique. Merci les gars, les filles.
Merci Djoubaka.
Ça vous a plu, Jane Birkin ?
Pas tellement.
Votre honnêteté vous honore.
Avec Jane un bon philharmonique derrière, ça peut passer.
Effectivement, oui. Jane Birkin qui est en tournée internationale avec le symphonique, l'album Birkin Gainsbourg le symphonique. Vous êtes en tournée notamment aussi en France, bien sûr. Vous serez à Montpellier le 4 novembre. En novembre, il a des dates à Mâcon, à Nevers. Et en décembre, vous serez le 14 décembre à Toulon, le 15 à Aix-en-Provence et le 16 décembre à Sainte-Maxime. Jane Birkin est avec nous jusqu'à 18h. Et bien sûr, il y a Guillaume Meurice qui est là tous les jours.
Oui, et en plus, aujourd'hui, s'est ouvert le salon Viva Technologie, Viva Tech, le salon des technologies connectées. L'occasion de constater que l'être humain est bien la créature la plus évoluée de la biosphère. Alors, ça se voit pas forcément hein, dans l'équipe de l'émission, mais bon, dans l'ensemble, ça se vérifie. On est quand même la seule espèce qui a inventé des ordinateurs sur lesquels on bosse pour rembourser les ordinateurs qu'on a achetés. C'est qui les plus forts ? Bam ! Aïe, je me suis fait mal, pardon. Alors, pour parler innovation, j'ai pas choisi Vivatech, moi j'ai choisi de m'intéresser au hackathon. Alors le hackathon, ça peut paraître comme son nom l'indique, et souvent je vais vous dire ça l'est, mais ce sont des vrais développeurs, des ingénieurs, des start-upers qui mettent leur énergie et leur envie au service de leurs rêves et qui vont au bout de leurs idées. Alors je vous ai fait une petite sélection des innovations, on commence avec Mietissimo.
Le Mietissimo, c'est un rajoute-miette. En fait, on a pensé à toutes ces personnes qui sont seules aujourd'hui, qui ont du mal à se rajouter des miettes. Donc on a développé un produit, toute une gamme d'outils et de produits d'ailleurs, qui permettent aux gens seuls de vivre un vrai repas. Un repas en famille, un repas à deux, un repas à plusieurs. Tout ça dans la convivialité. On s'est aperçu que plus on a de miettes chez soi, plus on est heureux.
C'est une vraie étude.
C'est une étude américaine.
Voilà, donc c'est validé. On sait que pour rendre une étude sérieuse, on dit selon une étude américaine. Inversement, si vous dites selon Christophe Barbier, vous êtes à peu près certain de dire une connerie. Donc le rajoute-miettes, ils l'ont créé, ils l'ont développé, ça marche. Il y a des maquettes, des prototypes. Et tout ça, c'est fait pour apporter bien sûr du bonheur aux gens.
Et en leur apportant du bonheur, on leur apporte aussi la satisfaction d'avoir eu un bon repas. Un bon repas aussi à la française. Puisqu'on leur propose d'avoir des miettes de pain, des miettes de pain au chocolat ou de chocolatine, attention.
Attention, hop, 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 n'allons pas créer un incident diplomatique entre d'un côté nos auditeurs du sud-ouest de la France et de l'autre nos auditeurs civilisés. On peut dire les deux, hein, attention, pain au chocolat ou chocolatine, ça marche que pour ça, hein, d'ailleurs je vous le dis, on dit Charline hein, par exemple, parce que pain au charlat, hein, ça ne veut rien dire. Alors la question c'est, est-ce qu'ils vendent également les ramasse-miettes qui vont avec ?
Non, on ne vend pas de ramasse-miettes. Nous, on fait des rajoute-miettes.
Oui, mais justement, c'est un petit peu comme les gens qui créent des virus pour vendre les antivirus, non ?
Non, écoutez, laissez faire les gens qui font des rajoute-miettes. On verra ça dans un temps d'eux si la direction et les actionnaires acceptent l'idée.
Ouais, exact. Ouais, c'est vrai que dans le monde des Macron, ce sont les actionnaires qui décident. Hein. Donc vous me direz, ouais, c'est dégueulasse, le destin d'un jeune apprenti de chez Peugeot dépend d'un vieux retraité de Miami. Et je vous répondrai, oui, mais c'est disruptif. Voilà. Ça veut rien dire, mais bon, c'est à la mode, ça va avec tout, c'est disruptif. Donc, le rajoute-miettes, ça, on note. Alors, ils m'ont même dit qu'ils bossaient également, c'est une petite scoop, sur le dépose-poil. Même principe, ça dépose des poils et des cheveux longs pour qu'on ait l'impression de vivre à plusieurs.
C'est vrai ou pas?
Ouais, c'est vrai, ils développent ça. Alors, allons voir, c'est le hackathon. Attention, hein, c'est le principe. Alors, allons voir quand même du côté d'une autre innovation. Popal, je vous présente. Popal, c'est quoi?
Alors, Popal, c'est une boîte pop-corn qui s'allume lorsque vous prenez du pop-corn. Imaginez, vous êtes au cinéma, le film est intense, la salle est noire, et vous avez envie de prendre votre pop-corn. C'est une vraie innovation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez piocher le pop-corn, la boîte va s'illuminer.
Donc, c'est histoire d'être encore plus chiant que les habituels mangeurs de pop-corn.
On s'est dit que le son d'un pop-corn marché n'était pas assez.
C'est vrai. Il y a toujours moyen d'encore plus faire chier le monde au cinéma avec de la lumière. Alors attention, il peut arriver quand même que vous n'arriviez même pas à être aussi chiant que le film en lui-même. Mais on n'est pas là pour parler cinéma français. On parle pourrir la vie aux autres. Mais des jeunes de la French Tech ont même trouvé un moyen de se pourrir la vie tout seul.
Alors, on travaille sur une application de dégradation de santé qui s'appelle Ilat Easy et qui fonctionne avec deux objets connectés, un collier connecté et une Moon Cup connectée. Et donc, l'application repère quand on va trop bien, quand on est relax et tout ça. Elle va envoyer des signaux pour nous dérelaxer. Typiquement, quand on est en phase de sommeil profond, elle va envoyer du Cradle of Filth et des discours de Marine Le Pen. Également, elle peut envoyer Cyril Hanouna dans les speakers.
C'est violent quand même. Ouais.
C'est un peu violent.
Voilà, c'est même dangereux. Non, ne le faites pas chez vous. Donc c'est un collier qui est relié à un boîtier qui analyse en fait votre rythme cardiaque, votre tension. Et dès que vous allez bien, bam, ça vous balance un son désagréable, comme par exemple voilà ce qu'on a entendu, Clara Dupont-Moneau qui se racle la gorge, ça peut être voilà, ou même Clara Dupont-Moneau qui parle politique, voilà tout ce qui est désagréable. Voyez, en France, on n'a toujours pas de pétrole, mais on a toujours des idées. Allez, concluons avec une dernière innovation.
Mais l'idée, c'est de reprendre ce qu'on appelle les méthodes agiles, qui sont des méthodes en développement logiciel pour faire des logiciels très rapidement, et de se dire, est-ce qu'on peut les appliquer à la mise en place d'une dictature ? Est-ce que je peux, grâce à des cours en ligne, apprendre à monter ma dictature en moins de 15 jours ?
Une sorte de tuto dictature.
C'est ça. Ça va de choses très fortes comme un coup d'État à d'autres choses comme faire passer l'état d'urgence dans le droit commun.
Ah, bien vu, bien vu. Le tuto Macron est donc envisageable bientôt avec des coups de pression sur les journalistes, des gardes des Sceaux qui appellent directement un média pour les engueuler, des réformes sans débat au Parlement. Voilà le kit parfait de l'ubérisation de la démocratie. Macron, on le sait, c'est le président digital, comme le doigt, hein, celui qui nous adresse le plus souvent. C'est le mal nommé doigt d'honneur.
Oh là là.
Guillaume Meurice, hein, ça va mieux Guillaume, c'est bon ? Ok, super.
Ils font bien rire.
On est ensemble avec Jane Birkin qui nous accompagne. On va aborder ce deuxième sujet avec vous, Jane. Le pessimisme français est-il un mythe ou est-ce qu'il est vraiment ancré dans la culture sociale ? Ce qui signifierait qu'on est bien dans la mouise. Hein, à moins d'adhérer au club d'optimistes qui commence à émerger en France sous cet hymne.
Annie, viens, je t'emmène dans un monde meilleur. Les matins se lèvent sur des cités en fleurs. Annie, viens dans mon rêve, je t'emmène voir ailleurs. Et l'amour qui nous reste fera de nous les vainqueurs.
Mais ça, en symphonique, ce serait magnifique.
Vous n'avez pas aimé non plus, ça. Mais vous n'avez aucun goût, Jane Birkin, c'est pas possible.
Il y avait un peu de Chopin.
Oui, bien sûr.
C'est un extrait de la série « Fais pas ci, fais pas ça » avec Bruno Salomon. Bien sûr, bah, oui, évidemment. Alors, c'est un article paru dans Society. Oui, c'est une fausse chanson, hein, je vous rassure tout de suite. Mais il y a des vrais qui sont pires. Hein. Ouais. Un article paru dans Society, qui est toujours en kiosque, qui explique, par exemple, que Emmanuel Macron dit « penser printemps, il veut le candidat de l'optimisme ». Il y a des clubs d'optimisme qui se créent en France. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui se posent la question, est-ce que le pessimisme est foncièrement ancré chez les Français ? Vous trouvez que les Français ont inclus dans leur mode de vie une forme de pessimisme ?
Bah, les gens râlent beaucoup quand même. Ah bah oui. Ah oui. Et puis, et c'est assez connu. Enfin, c'est toujours comme ça. Hein.
C'est pas qu'un cliché, donc.
Oh bah non, pas du tout. Ils brossent tout en noir. Enfin, alors, j'adore cette expression de brosser tout en noir, mais c'est vrai, ils brossent tout en noir. Ils voient avec pessimisme des choses, c'est vrai. Mm-hmm. Ça fait partie du charme aussi, je trouve. Hein, parce que moi, je viens d'un pays anglais où voilà, les choses sont un peu catégoriques, où tu vois les gens qui disent bonjour dans le bus, qui t'aident, qui donnent un coup de main si tu tombes par terre et t'aident. Alors qu'en France, bon, c'est moins certain. Mais tu tombes sur les... Voilà, il y a des réactions individuelles qui dépassent ce qui se passe en groupe, souvent. Enfin, je ne sais pas. Moi, je trouve une certaine charme. Mais que les gens ne sont jamais contents, que tu trouves du mal quand même. Des taxis râlent tout le temps. Il y a des Uber. Enfin, j'ai entendu de tout, quand même.
En même temps, l'insatisfaction est un moteur. Du coup, c'est
insatisfaction. Ah oui, 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 bien sûr.
C'est l'un des moteurs
des
Français.
C'est un peuple créatif.
Mais le côté d'être content de soi est terrible. Donc, on est dans une position délicate parce qu'en fait, le monde entier nous envie avec Macron. On est tout d'un coup un peu tralalaire en ce moment.
On peut le renvoyer peut-être.
Il faut faire attention qu'on n'est pas trop tralalaire parce que, enfin, personnellement, j'ai jamais aimé les gens très tralalaires. Donc, c'est vrai que là, on risque d'être... Voilà, trop gay.
C'est vrai, vous. Alors, vous mettez le doigt sur un passage pour clore ce sujet, qui racontait dans Society un ex-conseiller de Sarkozy qui s'appelle Thierry Saucé, qu'on avait reçu dans cette émission d'ailleurs.
Très tralalaire, lui. Hein.
Et très tralalaire. Thierry Saucé, comme conseiller de Sarko, lui disait toujours de porter espoir, d'être optimiste. Et Sarkozy répondait, oui, mais si je fais ça, les gens vont penser que je ne connais pas leurs difficultés ou leurs galères. Et beaucoup de politiciens sont dans ce schéma-là. C'est presque indécent d'être optimiste quand on est politicien, parce que sinon, ça veut dire qu'on est déconnecté.
Mais il y a qu'en France peut-être qu'on confond l'optimisme et la béatitude un peu niaise.
Peut-être.
Que c'est pas la même chose. Oui.
Oui, et puis ça fait pas de mal les gens qui, quand tu veux acheter quelque chose, qu'ils ont l'air contents de vous le vendre. Quand tu vas en Japon, c'est vrai qu'il va jusque la porte en marche arrière en te remerciant. C'est vrai que là, ici, ils ont...
C'est vrai.
Ils ont un grand choc, quoi. D'ailleurs, il y a quelque chose qui s'appelle, non ? Il y a un phénomène de... quand ils arrivent en France, parce qu'en Angleterre, ils s'attendent d'avoir des mauvaises surprises. Mais la France, ils pensent que c'est Alain Delon, que les gens vont être charmants, etc. Et il y a une sorte de cellule de crise de japonais,
pour les japonais qui sont
littéralement choqués.
Mais il y en a qui se retrouvent à Sainte-Anne. Hein, c'est pas...
Non, mais
c'est vrai. Ouais, ouais, parce qu'ils sont choqués. Par ils voient les images à la télévision d'un Paris propre, sympathique.
Et puis après,
etc.
ils croisent Guillaume Meurice sur un marché.
C'est très bien résumé. Micro, Jane Birkin, voici le moment de Clara Dupont-Monod pour la littérature.
Enfin, le moment surtout de l'actualité d'abord, Charline, parce que c'est quand même la victoire écrasante de La République En Marche au premier tour des législatives. Ça a marché, comme dirait l'autre, et c'est incontestable que ça ne plaise ou que ça ne plaise pas, ça a marché. Et pourtant, nous devrions nous méfier. Parce que Emmanuel Macron pourrait bien disparaître. Alors ça fera plaisir à certains, mais il se trouve que c'est un roman qui nous met en garde et qui vient de paraître. Et ce roman s'appelle « L'homme qui s'envola » de Antoine Bellot. Et il nous dit en fait « Méfiez-vous des hommes comblés ». Il faut se méfier des gens heureux. Le héros de ce livre, c'est un héros, un personnage, pardon, qui s'appelle Walker. Et Walker, c'est un winner. Je vous expliquerai, Alex, ce que c'est un winner. Mais il a une entreprise qui ramène plein d'argent. Il en a assez pour pratiquer son hobby qui est de piloter des avions. Il a une très jolie femme, il a une belle maison, il a des chouettes enfants. En fait, c'est une espèce de réussite totale. Et puis, tout ça, au fond, ça lui est complètement égal. Parce que dans le fond, Walker, il a un rêve et un seul, c'est avoir du temps. Le temps, c'est ce matériau rare et précieux que les nouvelles technologies nous confisquent. Et ben Walker, il meurt de ne pas avoir de temps. C'est-à-dire que sa vie est une succession d'obligations. Il faut qu'il assiste à un conseil d'administration, à une réunion de parents d'élèves, à un rendez-vous avec le banquier, avec les voisins, avec des voleurs de temps. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'organiser sa propre disparition. C'est-à-dire qu'il achète une gourde, une corde, il achète un duvet, il va les enterrer dans un endroit précis, et puis il monte dans son avion, pour un petit tour habituel, parce qu'il a un avion. Et puis, arrivé en haut d'une montagne qu'il avait repérée, il lâche les commandes et il saute en parachute. Donc, crash aérien égale corps disloqué, qui plus est dans une région montagneuse, donc impossible à retrouver. Hop, le tour est joué. Sa femme est anéantie, ses enfants sont désespérés, et voilà notre Walker en train de suivre son propre enterrement sur sa tablette. Alors, c'est ça moi, que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est que, mine de rien, ce roman, il charrie en gros deux grands fantasmes. D'abord, celui d'assister à son propre enterrement. Attendez, alors là.
C'est un fantasme mais oui. français peut-être.
Non, mais c'est, sondez-vous profondément. Je veux dire, on a tous eu ce fantasme. C'est-à-dire que, mais c'est évident, tout le monde dit des choses sympas sur vous. Il y a des fleurs, il y a des yeux rouges. Tant de chagrin vous fait sentir aimé, irremplaçable. Bon, et donc quoi, tout le monde ira manger une pizza dans deux heures et vous serez oublié.
Nous, on a ça de notre vivant, parce que pour vous, c'est peut-être plus rare.
Non, mais je vous assure, c'est un fantasme qu'on a tous. Je ne vous demande pas d'être honnête avec vous-même autour de cette table, personne ne l'est. Mais songez à l'être après l'émission, vous verrez. Et puis après, le second, c'est la disparition. Et là, c'est pareil. Mais qui autour de cette table et parmi nos auditeurs n'a pas eu un jour ce fantasme de « je prends ce train-là » et c'était pas prévu. « Je prends le premier avion qui passe. Je me dilue. Je me dissous. » C'est ce fantasme qui irrigue tout le livre « La disparition » de Georges Perec, qu'il a écrit d'ailleurs sans mettre la lettre « E ». C'est l'histoire d'un personnage qui disparaît et c'est aussi la disparition d'une lettre. C'est Romain Gary qui disparaît derrière Émile Ajar et de façon générale, c'est la personne qui disparaît derrière le pseudonyme et quel qu'il soit. C'est aussi nous tous intimes qui disparaissons derrière nos fonctions de toute la journée. Que la fonction soit président de la République, chanteuse, animatrice radio, procureur aigri, chroniqueur radio et programmateur. Et c'est aussi Agatha Christie, figurez-vous, qui a disparu entre le 3 et le 14 décembre 1926. Voilà, vous êtes au courant, Jane Birkin. Personne ne sait ce qu'elle a fait. À ce moment-là, c'est la reine des librairies. Elle a un manoir, elle a un mari, elle a une petite fille adorable. Elle prend sa voiture et elle se volatilise pendant 11 jours. Et personne ne sait ce qu'elle a fait. C'est une des histoires les plus mystérieuses qu'on connaisse de l'histoire littéraire. Peut-être, on peut imaginer, qu'elle cherchait un peu de temps, comme Walker. Et peut-être aussi que la réussite, au fond, ne pèse pas grand-chose, finalement, face à cette urgence immatérielle qu'est celle du temps. Il ne s'agit pas de dire, évidemment, qu'il vaut mieux être seul et loser. Hein. Dans ces cas-là, Vizorek et Murray sont les hommes les plus heureux du monde. C'est juste de dire, à un moment, comme Walker, je cite, « Le seul bien qui ne s'achète pas, c'est le temps, et ça lui manque. » Donc, si Emmanuel Macron disparaît, on saura pourquoi. Je vous redonne les références. « L'homme qui s'envola » de Antoine Bellot est paru chez Gallimard.
Merci, Clara Dupont-Monod. Et on vous retrouve, bien sûr, samedi à 19h20 sur cette antenne pour pour l'amuse-bouche, avec comme invité
Cécile Coulon.
Merci. On va aborder ce troisième sujet avec Jane Birkin. Ah, on y est. Un comportement sexiste vient d'être mis en lumière, le manspreading.
Ah. Ah,
l'homme qui s'étend, littéralement, c'est ça hein, en anglais. Celui qui prend un peu trop ses aises en écartant les jambes lorsqu'il est assis dans les transports en commun, ce qui oblige la voisine ou le voisin à serrer les siennes. Et les types sont pas contents parce que même sur Europe 1, ce matin, Raphaël Antoven a pris la défense des garçons là-dessus. Allez, écoutez, écoutez.
Les hommes sont des salauds. Quoi, c'est pas ce qu'elles disent? Et c'est parce que nous faisons des saloperies, oui, des choses horribles, atroces, odieuses, des choses terribles, des choses qu'aucune femme ne ferait jamais. Vous voyez où je veux en venir? Ah oui, vous voyez très bien, vous voyez que la société apprend aux petits garçons à faire... Waouh, les femmes oh. Ouais, on nous apprend à nous excuser, oh, je suis désolé. Je suis tellement désolé, ma chérie, tellement désolé.
Oh. Extrait de Magnolia, c'est Tom Cruise en VF, oh. Film de Paul Thomas Anderson. Le manspreading, donc, c'est revenu dans l'actualité par le métro de Madrid qui met des pictogrammes et qui incite les hommes à faire un peu attention parce qu'ils voilà, ils s'assoient en écartant les jambes comme ça. Ça existe, ce phénomène existe aussi à Tokyo où on a demandé aux gens de faire attention, il y a dans plusieurs villes. Est-ce que vous voyez un peu ce type de comportement ou pas?
Écoute, tu prends pas des transports en commun.
Non, mais dans une salle d'attente, dans une salle de concert.
Mais je trouve.
Vous avez jamais noté ça?
Si, oui. Absolument. Bah, je trouve ça drôle toujours de regarder les gens parce que j'imagine toujours à poil. Déjà, de toute façon.
Mais donc, les types comme ça.
Mais oui. Donc, déjà, j'imagine, je sais pas, c'est une sorte de tristesse entre les jambes, tu vois, une sorte de, voilà, tout ça un peu molle et un peu chaud. Et.
Parlez-nous encore,
moi, ça m'attire pas. Je trouve que c'est vraiment très vulgaire. Mais un peu comme de manger avec la bouche pleine et comme ça.
Mais parce que nous les filles...
Ne mangez pas avec la bouche pleine, hein, c'est ça, à côté de Jane Birkin.
Non, parce que nous les filles, on nous apprend très tôt...
De croiser nos jambes.
Bah oui, à ne pas les écarter, parce que déjà, alors, quand on a une jupe, c'est...
Peut-être embêtant. Vous apprendre un truc, mais pratiquement, nous, on a du matos entre les deux.
Oui, mais est-ce que la réflexion progressiste de la journée...
Mais
c'est plus... Et puis c'est vrai que quand c'est gros, c'est encombrant.
Je suppose que ça tient un peu de ça.
Jane Birkin.
Ah non, pas pour aérer quand fait. Même.
Mais non. Il est très prétentieux. Pas au point d'écarter les jambes comme ça.
Non, je ne suis pas comme ça, mais j'essaye de trouver des solutions, moi.
Croisez les jambes des fois, dans votre spectacle à l'église.
Croisez
les jambes sans arrêt, donc ça veut dire que vous êtes capable.
Mais je suis d'une élégance sans faille, mais c'est parce que moi j'ai pas non plus.
Et donc Raphaël Antoven disait ce matin chez nos confrères d'Europe 1, le mot anglophone étant lui-même sexiste, il dit le problème c'est le nom qu'on lui donne, manspreading, c'est l'étalement de l'homme, et il dit pas de la femme. Et comme c'est genré, il faudrait dire human spreading, parce qu'il trouve ça sexiste.
C'est pas la première connerie qu'il dit, hein, Fallon. Pas non plus. On a appris aujourd'hui qu'il a eu que 11 sur 20 au bac philo à l'époque. Il en fait son métier.
En tout cas, ceci dit, moi, je spread pas mal quand même. Quand on arrive, j'arrive dans un lieu, il y a déjà des enfants, des sacs, des paniers, des machins. Quand tu arrives dans un train, tu te demandes comment tout le monde fait tellement net, quoi. Quand tu fais des voyages, moi, je suis extrêmement bordélique. Donc, je comprends que je prends beaucoup de place quand même. Donc,
James
spreading est quand même à méfier.
En tout cas, lui, Raphaël Antoven a terminé son billet de ce matin par « Pauvre Lola » de Serge Gainsbourg. Faut savoir s'étendre, pas se répandre. Ah. Jane Birkin, un peu de comédie avec nous, ça vous dirait?
Vous connaissez l'émission et en fin d'émission, on propose un sketch à l'invité qu'il découvre. Et on s'est dit quel rôle serait bien pour Jane Birkin. Et on s'est dit, et pourquoi pas Melania Trump? Vous n'y aviez pas pensé
bien.
À ça? Ah ben ça va, elle est contente, ça va.
Ah, super.
Parce qu'elle s'est installée. Elle s'est installée il y a 3 jours à la Maison Blanche. Elle n'y était pas allée depuis le début. Alors comment ça s'est passé? Il y a le petit Baron Trump et il y a évidemment Donald qui les attend.
Enfin, te voilà, Mélania, t'en as mis du temps.
Excuse-moi, Donald, mais je m'occupais de notre fils.
C'est bien un truc de gonzesse.
Que tu peux être drôle, j'adore ton humeur.
Papa, c'est le plus drôle et le plus fort et le plus beau.
Et le plus riche surtout.
Ah, tu reconnais mes qualités, ok. Alors, comment tu trouves la maison?
Beaucoup moins haute que le Trump Tower.
Oui, puisque c'est juste une maison, en fait.
Justement. Pourquoi on l'a appelée pas la Trump House?
Ok, what else?
Le déco, il faut refaire le déco. Je vais appeler Valérie Diamond.
Hein? D'Amido, Valérie Damido, ah, je pense. Oui, je pense que tu vas faire ça. Tu penses à quoi, par exemple?
Il faut reconstruire un nouveau mur.
Dans la maison?
Oui, j'ai aperçu quelques domestiques latinos.
Non, maman, j'ai peur.
Calme-toi, Baron, calme-toi. Papa et maman vont te protéger des méchants Mexicains.
Merci, maman.
Et déjà que l'ancien locataire était noir.
Donald, chut. Le petit va faire des cauchemars.
Bon, ok, pour le mur. Ensuite.
J'ai jeté un coup d'œil dehors. Il faut supprimer les jardins.
Ah, of course, oui, c'est de la chlorophylle. J'en ai rien à foutre.
Et aussi le terrain de golf.
Ah non, jamais, non.
Mais Donald, tu te contredis.
Ah, arrête ou je tweete.
Dis. Il est où le bureau de Bill Clinton?
Tu veux aller fumer un cigare?
Mais maman ne fume pas.
Il est mignon, ce gosse.
Donald, c'est normal. Tous ces drapeaux russes qui tapissent les chambres.
Ne parle pas trop fort, on pourrait nous entendre.
Donald, je te connais comme si tu m'avais fait. Tu as une maîtresse russe.
Une maîtresse? Papa, il va à l'école?
Ah oui, c'est ça, maman.
Oui, je vous laisse. Je dois aller surveiller le FBI.
Le FBI? Ce sont des ouvriers qui vont s'occuper de notre nouveau déménagement?
Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle est intelligente, ma femme. On dirait son mari.
Jane Birkin, merci.
Il doit revenir dans une comédie au théâtre.
Jane Birkin, eh bien, avant, elle a du boulot. Oui. Jane Birkin, parce qu'elle est en tournée internationale. Elle va faire du James Spreading dans tous les avions, dans tous les trains de France, d'Europe et du monde. Et vous commencez donc à Strasbourg le 1er juillet au Festival des Deux Rives. Vous passez par Lisbonne, Tokyo, Bruxelles le 2 septembre, Londres le 26 septembre. Le 26 octobre, vous serez à Paris, au Grand Rex. Il y a aussi des dates à l'automne et en décembre, Montpellier, Mâcon, Nevers, Toulon, Aix-en-Provence et Sainte-Maxime le 16 décembre. Et bien sûr l'album magnifique Birkin Gainsbourg, le symphonique, qui nous a happé comme ça sur Radio France quand vous étiez venu et qui a été diffusé sur France Inter. Merci beaucoup Jane Birkin.
Merci.
Et bonne
merci.
Tournée alors.
Merci.
Et voici le mot de la fin à Theresa May qui entraîne ses équipes pour le Brexit hard.
1, 2, 3, 4, c'est mou, hein? Un peu plus nerveux.